Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Guillaume. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir.
Tu as créé Chanvrel, c'est ça, hein,
ça il y a... Chanvrel.
J'arrive pas à le prononcer.
Non, tu peux dire Chanvrel, mais Chanvrel. Chanvrel à l'alsacienne. Ça veut dire bah, chanvre, la plante, et il, c'est l'huile en alsacien.
D'accord. Et il y a 2 ans, c'est ça?
Il y a 2 ans, c'est ça. D'abord, c'était un projet, et qui s'est transformé après en société, entreprise avec mon frère il y a 1 an.
D'accord. Je suis venu donc visiter ton champ des chanvres.
C'est ça.
Tu nous as expliqué que, en fait, ça voulait dire cannabis.
Bah, le chanvre, c'est la traduction française du mot latin cannabis sativa.
Oui, voilà.
Enfin, voilà. Donc, grosso modo, le chanvre, c'est juste des variétés de cannabis qui sont dépourvues de THC, donc la molécule psychotrope.
Moi, je crois que c'était un délire, genre c'est femelle, mâle, de la plante.
Il y a ça, bah, justement. Ouais. En fait, sauf que le chanvre, majoritairement, c'est monoïque, c'est-à-dire ouais. que c'est mâle et femelle sur un même pied. Alors que les variétés de cannabis, naturellement, entre guillemets, de base, elles sont mâles ou femelles.
Ouais. Et en fait, tu nous as dit que dans la variété que tu as, il y a 0,0001% de...
Ben, grosso modo, en fait, la législation française, elle l'autorise des variétés qui sont inscrites à un catalogue et homologué français-européen. Et il se trouve que c'est maximum 0,2% de THC qu'il pourrait y avoir dans la plante. Mais ça, c'est dans la plante, alors que dans la graine, dans la tige, c'est ce qui est uniquement valorisé en France. Il n'y a pas de THC. Enfin, si on fait une analyse de la graine, on serait à 0,3 ou 4 zéros derrière la virgule 1%. Alors, il faudrait s'envoyer des kilos, je sais pas, des dizaines de kilos de graines, ou alors des dizaines de litres d'huile pour avoir peut-être un espèce d'effet. Et encore, je suis pas sûr. Je pense que c'est plus l'indigestion qu'autre chose.
Il y a vraiment des gens qui ont coupé.
Ouais, il y a vraiment des gens qui ont pris, qui ont coupé.
Okay.
Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai lu, je dirais pas quel article, etc., mais des commentaires des fois sur Internet, sur les réseaux sociaux, où des gens en fait sont tombés sur des champs de chanvre en Alsace cet été, donc c'est peut-être ceux-là ou d'autres, et en pensant vraiment que c'était du cannabis, ou en disant, bah t'as vu, t'étais con, ce que t'as coupé, c'était pas ça, quoi.
Ah ouais.
Donc j'ai même vu sur Internet des gens qui dansent leurs potes en les taguant en disant, bah ce que t'as coupé le jour, tu vois, c'était du chanvre, c'était pas du cannabis. Mais après, ça reste limité. Ça reste, je pense, quelques pieds. Les gens disant, ah tiens, c'est du cannabis. Mais la majorité des champs sont assez intacts. Mais c'est vrai qu'on aborde des champs, j'ai vu qu'il y a quelques pieds qui ont été coupés.
Bon, ça fait une petite anecdote, quoi.
C'est ça.
Mais ouais, vous pouvez rien faire avec.
Bah non, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. En plus, c'est en train de partir en graine totale. Donc, à part avoir de la graine sous l'enveloppe qui pense être peut-être du cannabis, je sais pas, ils vont être surpris. Ou avoir très mal au crâne, quoi.
Ça sent pas.
Ça dépend, ouais. Il y a des périodes, genre là, cette période-là, ça commence un petit peu à sentir, mais ça sent pas effectivement aussi fort que du cannabis ou de la fleur de cannabis. Il y a une petite odeur en fait qui est présente en fait, et qui sert à la plante à en fait se protéger de certains insectes pour les faire fuir. C'est pour ça qu'il y a une odeur un peu forte avec cette plante-là, mais sur les champs de chanvre, ça reste assez limité, c'est pas très prenant.
Et comment on se dit qu'on va se mettre à la culture des chanvres en France?
Comment on se dit ça? Bah, on se dit que on travaille dans l'hôtellerie à la base et qu'on tombe sur... je travaillais pour La Durée, c'est un groupe de salons de thé, on va dire, macaron, type parisien, au style Opéra Garnier, Rococo, enfin bref, dont les touristes à Paris en raffolent, à l'étranger aussi. Et quand j'étais à l'étranger, je bossais pour eux. Et il se trouve que la chef pâtissière monde à l'époque, c'était Claire Heitzler. C'est une chef pâtissière alsacienne. Et qui avait fait une recette de macarons à la farine de chanvre. Alors je trouve ça drôle au début, sans connaître vraiment ce que c'était. Il y avait le chef international qui mettait de la graine décortiquée dans certains de ses plats. Et en parallèle, moi j'ai toujours fait de l'eczéma. Et j'avais trouvé des baumes à l'huile de chanvre. Et ben, je trouve ça vachement intéressant, et ça m'a aidé aussi pour l'eczéma. Et quand je suis rentré en France, je voulais savoir un peu qui faisait quoi dans ce domaine-là. Et je trouvais qu'il y avait quelques gros acteurs français, mais qu'il n'y avait plus rien en Alsace, il n'y avait plus de chanvre du tout non plus. Et je sais pas, j'ai un peu craqué à l'époque. Je me suis dit, j'ai plein d'idées dans ma vie, ou même d'entrepreneuriat, et je me dis, je pense à quelque chose, et puis 2 ans après ou 1 an après, quelqu'un le faisait, je me suis dit, bah tiens, là... C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur, parce que c'est une plante hyper écologique et on peut faire plein de choses avec. Il n'y a personne qui le fait, donc bah, je me lance. Je le fais et c'était un peu fou entre guillemets au début, puis finalement, de petit à petit, ça a pris. Et j'avais un an, j'avais du chômage devant moi, un peu d'argent, un peu de temps. Et du coup, je me suis mis à faire voilà, que ça. Et puis petit à petit, on commence de rien et puis on arrive à 20 hectares de chanvre. C'est 40 millions de pieds de chanvre. Voilà.
40 millions.
40 millions.
Ouais, on croirait pas comme ça qu'on voit le
Voilà.
champ.
Bah, c'est 2 millions de pieds par champ à peu près.
Est-ce que tu es entrepreneur dans l'âme ou tu as eu plein d'idées, des milliards d'idées, je pense, comme tout le monde?
Bah, j'ai plein d'idées, enfin j'ai beaucoup voyagé, j'ai la chance de beaucoup voyager pendant 10 ans, et du coup j'ai vu plein de concepts, plein de choses qui se faisaient à travers le monde, mais ça peut être la restauration, même enfin tout et n'importe quoi, où je trouvais que l'idée était vraiment géniale. Alors je me disais, mais purée, on n'a pas ça en France, ou alors on n'a pas ça à Strasbourg, ou et voilà, j'avais toujours plein d'idées, puis à un moment donné, bah, à force de travailler, je suis passé bah, d'apprenti à même voilà, responsable de manager. J'avais fait le tour et je me suis dit, bon, maintenant je pense que si j'ai envie de me lancer, ben, je le fais. Et quand je suis rentré aux États-Unis, après 2 ans, je me suis dit, bah, c'est vraiment une très belle région, l'Alsace, il y a des choses à faire. Et j'ai envie de rester un petit peu maintenant, et même un peu plus longtemps que prévu, et de me lancer dans un projet qui me plaît. Et on a lancé Chambrel.
Ouais. Et tu t'as commencé par quoi? Par l'huile ou par les baumes?
Non, par l'huile. On a commencé avec une petite huilerie artisanale, d'ailleurs à Wittisheim. Et puis on a acheté d'abord un peu de graines, on a fait des premiers essais, on a acheté plus de graines, on a pressé plus. Après, bah, il fallait faire ses étiquettes, des marchés, des magasins, enfin se faire certifier bio aussi, des marchés, des magasins bio, ou des marchés même des gens qui pourraient être intéressés. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un petit, il y avait un intérêt carrément sur cette plante-là et sur les vertus qu'elle a. Donc on a décidé de passer après à faire vendre de la graine entière, après de la graine décortiquée. On a fait faire des savons et des baumes en parallèle. Là, on a de la pure protéine de chanvre. On travaille sur une farine de chanvre aussi. Et on a plein d'autres idées, même des pâtes alimentaires, du chocolat, des bougies à l'huile de chanvre. Bref, il y a plein plein de choses qui sont en projet qu'on va essayer de mettre en place d'ici la fin de l'année.
Ah ouais, vous essayez de lancer au maximum de...
Bah, on a un éventail de produits. En fait, quand on presse de la graine, on a l'huile d'un côté, on a le tourteau, la graine déshuilée de l'autre. Et donc, entre guillemets, c'est un déchet. Actuellement, on le valorise un peu. Voilà, on l'en a revendu un peu pour l'agroalimentaire. On le vend aussi à des éleveurs pour le bétail. Mais en fait, c'est une excellente farine sans gluten qui est très riche en protéines. Sauf que ça demande une adaptation de certaines machines. Et ça a un coût aussi. Et ça demande de la recherche du développement. Et bah, en fait, si on arrive à valoriser ça, on valorise tout. En fait, on a l'huile, on a la farine de l'autre côté. Et avec de la farine, qu'on peut mélanger à d'autres farines parce que c'est sans gluten, bah là, l'éventail des recettes et des possibilités, il est hyper large. On pourrait faire, je sais pas, même des gâteaux, enfin, pour faire tout ce qu'on veut finalement en mélangeant avec ça. Des barres protéinées, enfin, il y a plein plein de choses à faire. Et là, notre but, c'est jusqu'à la fin de l'année, bah, tant que on a encore le chômage, etc., bah, de pouvoir ne pas se payer le plus longtemps possible et puis injecter le maximum d'argent dans la trésorerie de l'entreprise pour pouvoir continuer à développer des produits. Parce que quand on commence à se payer, bah, un SMIC, je sais pas, les gens ils gagnent, c'est moins de 1200 euros net, mais moi si je me paye un SMIC, c'est minimum 2100 euros que je sors de l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi un calcul à faire, et si je veux me payer plus, bah, c'est de plus en plus. Donc le but, c'est voilà, de développer un maximum l'entreprise et la production, les produits, la trésorerie. Puis après, à un moment donné, quand on commence à se payer, bah, il faut arrêter. Et pour pouvoir bah, être viable au niveau de l'entreprise.
Ouais, mais après, il y a aussi l'idée que bah, si tu te payes, bah, tu trouveras plus de produits à vendre et tu feras plus de marge. Et, enfin...
Il y a ça
Mais c'est
aussi.
mieux, enfin, faut se payer à un moment. Si tu te payes pas, ça va être compliqué, tu vois.
Ah non, bien sûr, bah, bien sûr
Non,
qu'il
mais
faut se
tant,
payer.
enfin,
Non, c'est
c'est le
sûr
jeu,
que.
hein.
C'est ça, mais c'est vrai que là, mais le but, c'est. Voilà, quand tu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense quand on démarre une entreprise, c'est de ne pas se payer le plus longtemps possible. Là, c'est 6 mois, des fois c'est 1 an, d'autres c'est même 3 ans. J'avais des gens qui sont pendant 3 ans qui se payent pas, qui ont soit un peu d'argent de côté, ou soit effectivement qui ont 2 ans de chômage, etc. Donc c'est ça, c'est de nourrir son business, et puis après le fait d'injecter le maximum pour se développer le plus rapidement possible. Et c'est ça en fait, c'est d'avoir un maximum de produits bah, d'ici la fin de l'année. Parce qu'après on sait que le développement des produits sera un petit peu ralenti. Et que voilà, on commence avec encore plein de choses à faire, même avant de se déployer entre guillemets sur un marché qui serait au-delà du marché local, bah, il faut aussi avoir une certaine gamme déjà en place. Et qu'on a bien testé en local, voir comment ça plaît, si vraiment c'est intéressant, si même au niveau des coûts, des rendements, enfin si on arrive à optimiser tout ça.
Comme dit le champ, c'est un produit qui va revenir, tu penses?
Ah oui, non, moi j'en suis persuadé. Enfin, c'est une plante historique, c'est que tout le monde utilisait ça il y a encore 100 ans. Et là, on est en train de s'y remettre, et ça fait, on va dire, je pense, 5 ans maintenant, peut-être un peu plus, que c'est quelque chose qui s'est bien redéveloppé en France. Les surfaces n'arrêtent pas d'augmenter chaque année dans le champ, et l'aspect alimentaire a clairement changé la donne, parce que chez moi, c'était beaucoup pour la fibre, et ça demandait pas mal d'investissement en machine à côté. Et le côté agricole permet de. Enfin, le côté alimentaire, c'est pas du. Ça reste quand même une petite part du chanvre encore en France. Mais je pense que c'est ce qui va être de plus en plus mis en avant. Parce que voilà, tout ce qu'on peut faire en alimentaire, après. Enfin, je sais que la graine, l'alimentaire et de la cosmétique juste de base, c'est déjà assez énorme. Et puis il y a de plus en plus de gens, même si c'est un anti-allergène, il n'y a pas d'allergène dedans naturellement. Les gens. Il y a plein de gens qui sont maintenant vegan, végétariens, même flexitariens, qui veulent voilà, consommer moins de viande, enfin, mieux de viande, mais voilà, moins, et avoir des protéines végétales. Même je me rends compte, enfin j'ai vu que les sportifs, maintenant le régime végétalien, vegan pour les sportifs, c'était même préconisé parce que c'était souvent moins inflammatoire que les protéines animales. C'était plus digeste, elles étaient aussi complètes. Et donc je pense que c'est vraiment une dimension là aujourd'hui de tout ce qui va être la protéine végétale, même des oméga-3, enfin tout ce qu'il y a dedans. Même l'alimentation qu'on a, on se rend compte qu'on va être. Bah, si on mange correctement, bah, on tombe moins malade. Voilà. Je pense que l'alimentation aujourd'hui, la qualité de l'alimentation, même le budget d'alimentation, est quelque chose qu'on est prêt à revoir à la hausse pour nous, même pour nos enfants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a quand même mangé pas mal de merde pendant très longtemps. Voilà. Donc on pense qu'il y a un gros retour dans le chanvre qui va se faire sous même tous les aspects, vu que c'est une plante hyper écologique et qu'on utilise dans plein de domaines.
Et tu disais qu'en France, on avait comme une grande culture de chanvre.
Bah, on est le premier producteur de chanvre en Europe et le troisième dans le monde. Le premier producteur, je crois que c'est la Chine encore aujourd'hui, et après c'est le Canada. Et il y a un gros intérêt dans le chanvre au Canada aussi. C'est impressionnant le développement qu'ils ont fait. Ils vont passer, je pense, premier producteur mondial de chanvre. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont même pas assez de chanvre et qu'ils en achètent en France pour en transformer là-bas. Pourtant, ils en produisent déjà beaucoup, ils en rachètent encore en France pour certaines parties. Et ils sont à fond dans tout, dans la construction, le textile, dans l'alimentaire, la cosmétique aussi. Donc non, je pense que même quand je vivais aux États-Unis, il y a un énorme marché sur le chanvre. Je veux dire, toutes les salles de sport maintenant ont des produits à base de chanvre. Les coffee shops ont du lait de chanvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu assez commun. Et que les gens, du jour au lendemain, voilà, c'était même pas vraiment légal en plus aux États-Unis pendant longtemps. Et puis là, maintenant tout le monde en consomme, pas de soucis, c'est super. Voilà, bah tant mieux.
Est-ce que c'est plus démocratisé là-bas qu'ici, malgré que ça soit non, c'est légal ou
Assez légal, mais
dépénalisé,
c'est ça qui est
légal?
marrant, c'est qu'en fait le chanvre a seulement été légal en 2018 aux États-Unis, alors qu'on pouvait déjà importer des produits sans problème, et qu'il y avait déjà une bonne partie des États-Unis, il y avait du cannabis médical qui était légal, donc chaque État pouvait faire ses cultures de chanvre, mais à l'échelle nationale ça l'était pas. Donc ils avaient des soucis avec les banques, parce qu'il y a des banques qui sont nationales, ils avaient du mal à ouvrir des comptes, parce qu'ils disaient bah non, je suis désolé, c'est lié au cannabis que vous faites, on est une banque nationale à l'échelle nationale, donc on fera pas de compte. Mais non, là-bas, ils ont le cannabis médical, même récréatif. Quasiment tout le pays maintenant propose du cannabis médical. Enfin, c'est autorisé dans tous les États, quasiment. Et puis maintenant, même le récréatif. Donc voilà, c'était le premier à criminaliser cette plante-là. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est le premier à dire que c'est super et qu'il y a tout un business à faire autour de ça.
Et tu penses qu'en France, c'est en bonne voie ou pas? Ah, c'est
Franchement,
compliqué, hein.
je sais
Ton
pas.
avis
Je sais pas. Bah, la France, c'est
dedans?
un peu dommage parce qu'on est le premier producteur de chanvre et quand je vois un petit peu tout ce qui se fait pour ralentir certaines utilisations de la plante, parce qu'en France, c'est uniquement la tige et la graine qui est valorisable, mais la fleur et la feuille, il y a aussi plein d'intérêts, qu'ils soient alimentaires ou même cosmétiques. On peut faire de la bière avec la fleur de chanvre, avec les feuilles, on pourrait faire des tisanes, pour faire des extractions des différentes molécules qu'il y a dans le chanvre, pour le thérapeutique ou même du médical. L'Europe l'autorise, la France. Ça va être le dernier pays, je vais être méchant, comme souvent, à mettre les choses en place. Et voilà, on est quand même un pays qui est le plus gros consommateur
Cannabis.
de cannabis, je crois, en Europe, et on a les lois les plus répressives. C'est ça qui va, c'est toujours aussi drôle. Plus il y a de répression, des fois je me dis, bah, plus les gens consomment des produits, quoi. Voilà, c'est un peu là qui est drôle. Je pense que c'est vrai que si on faisait pas autant de pataquès autour de ça, franchement, je pense que ça ferait pas de mal. Ce serait plus simple pour tout le monde.
Sauf que si demain ça devient légal, les cartes sont redistribuées. Enfin, il n'y a plus autant de criminalité, etc. Il y aura moins de consommateurs.
Moi, j'en suis persuadé. Hein. J'ai des amis qui vivent aux Pays-Bas et ils me disent, et même au Portugal, là, apparemment, les Pays-Bas et le Portugal, c'est les deux pays en Europe où il y a le moins de personnes qui consomment de drogue. Alors qu'au Portugal, je crois que toutes les drogues sont dépénalisées et qu'aux Pays-Bas, bah, le cannabis est dépénalisé. Enfin, on peut en acheter librement. Et malgré ça, on dit, ah, bah, les gens, vous avez tous commencé à prendre des drogues dures. Vous avez le taux, hein, les taux les plus bas d'Europe, c'est dans les pays où généralement voilà, on dépénalise et on criminalise pas l'usage des drogues. Voilà.
On m'avait dit aux Pays-Bas, c'est les touristes qui fument, pas
Ah bah
vraiment la
les
population.
locaux, bah non, finalement, je crois qu'ils. Ça fait longtemps que j'ai eu des études à l'époque sur ça, je crois que c'était 4% de la population.
Rien du tout, quoi.
Enfin voilà, 4%, alors qu'en France, on était le double, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que mes amis qui vivent aux Pays-Bas, ils me disent, voilà, le centre-ville, voilà, c'est hyper touristique. C'est vrai que c'est les Français, même les Italiens, ou enfin les Allemands qui viennent là-bas, et pardon, les Hollandais, ils s'en foutent, quoi. Il y en a, ils sortent du travail, ils vont faire une bière, d'autres ils vont au coffee shop, d'autres ils font rien, voilà, ils prennent une tisane, voilà.
Mais la loi, je sais que la loi aux Pays-Bas, elle est bizarre pour les coffee shops. Genre, ils ont pas le droit d'en acheter, les coffee shops n'ont pas le droit d'en acheter, donc c'est la loi
Ah ouais,
est hyper bizarre, mais ils ont le droit d'en revendre. Ils appellent ça
c'est
la
ça.
porte par derrière, enfin.
Bah en fait, grosso modo. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'expliquait. Ouais, c'est.
C'est
Ils ont le
un
droit d'en
paradoxe.
vendre, c'est taxé. Par contre, l'approvisionnement, c'est le Saint-Esprit.
Et en fait, il y a même le ministre qui l'a fait la loi, il fait, ouais, non, il y a un problème.
Ah mais non, mais là, donc c'est quand même drôle parce que ça veut dire qu'ils ont le droit de vendre, mais par contre de s'approvisionner. Donc ça veut dire que techniquement, quand il se fait ravitailler le coffee shop,
Il est illégal.
et bah, il se fait entre guillemets arrêter, il passe aussi pour du trafic de drogue. Alors c'est quand même. Voilà. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, ils voulaient que l'État ne soit pas entre guillemets le premier dealer de Pays-Bas, quoi. Mais je dis, mais en même temps, quand on propose de taxer un produit, c'est que l'État récupère de l'argent, donc quelque part, c'est qu'il
Il est vilain.
accepte que ce soit vendu et qu'il le tolère comme une marchandise, comme une autre.
L'histoire du cannabis est encore avancée. Hein.
C'est drôle, mais ça évolue, c'est drôle. Il y a des pays comme la Thaïlande où c'était hyper répressif, et aujourd'hui, c'est un très gros producteur de cannabis, enfin, qui va devenir un des plus gros producteurs de cannabis médical, quoi. Alors qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, des gens qui avaient ça pouvaient aller en prison, peine de mort, etc., quoi. Et ça change du jour au lendemain, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment un virage qui est en train de se prendre partout dans le monde, que ce soit même pour le chanvre, le cannabis en médical, qui est hyper intéressant, qui permet d'avoir des effets secondaires très limités et de diminuer beaucoup de médicaments à effet secondaire à rallonge, et qui sont même, enfin, franchement nocifs sur du court ou du moyen ou du long terme. Donc non, non, je pense que vraiment cette plante-là, elle a plein d'intérêts dans tout, voilà, plein, plein, plein de domaines, construction. Dans le textile, enfin même le plastique végétal, on peut vraiment tout faire avec, donc il faut pas s'en priver parce que ça pousse tout seul, pas besoin d'irrigation, ça pousse partout dans le monde entre 0 et 6 000 mètres d'altitude. Donc voilà, une
Ah
plante
oui.
aussi renouvelable et aussi riche dans tous les sens, franchement, j'en connais pas d'autres dans le monde, quoi.
Mais en fait, donc, toi, tu étais chez La Durée, tu as vu la chef monde qui a fait donc
C'est ça, alors, je ne l'ai pas
frôler.
rencontré personnellement,
Oui, non, mais tu as
malheureusement.
entendu,
C'est
enfin,
ça.
t'as.
C'est en fait qu'ils avaient fait cette fameuse recette de chanvre macaron, parce qu'on en parlait à l'époque. Ils n'avaient pas validé la durée parce qu'ils n'étaient pas. Je sais pas, peut-être que le côté cannabis les dérangeait un petit peu.
Ouais, moi, je trouve que ça colle pas. Enfin.
Après, tu dis de la farine de chanvre, c'est de la farine de graines de
Ouais.
chanvre.
La durée, c'est quand même prout-prout, hein. Excusez-moi, mais ça, c'est prout-prout quand même.
Bah,
Les
après,
vieilles mamies, les
c'est vrai que dans
petites
le
touristes.
style, ouais, peut-être. Après, bon, eux, ils essaient de pas floquer un logo cannabis sur les macarons ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que. Allez, pourtant, c'est dommage parce que quand j'étais aux États-Unis, c'était vraiment peut-être le pays où faire un essai ou lancer
Ouais.
ça, parce que c'était peut-être le pays qui était le plus ouvert à ça.
Ils auraient cartonné, je pense, ouais.
Bah, je pense que ça aurait fait effectivement, ça aurait fait un petit buzz. Après, bon, ils ont leur politique, peut-être qu'ils se sont dit effectivement, on va pas encore se lier à un côté qui pourrait être cannabis. Bon, pourquoi pas, à la rigueur, s'ils ont décidé comme ça à l'époque, s'ils pensaient que c'était mieux pour leur image, bah, c'est qu'ils l'ont fait. Mais ça, comme. Enfin, à mon avis, je pensais qu'ils auraient pu le faire.
Ouais, mais c'est
Ouais.
les grosses boîtes, ils ont un peu peur.
Ils sont plus réticents, mais après, je vois qu'il y a énormément de. Je sais pas, à travers, comme dit, des chaînes de coffee shop aujourd'hui aux États-Unis qui ont du lait de chanvre, des chaînes de salles de sport qui
Ouais, mais c'est
proposent
la
des
durée,
produits.
quoi. C'est la durée.
Voilà, c'est que
Enfin.
c'est pas forcément quand on pense pas à la France ou à Paris, au salon de thé parisien, on pense pas chanvre, effectivement, mais bon, après, ça viendra. Donc, je pense que dans plein de choses, ça viendra, on verra.
Et toi, comme c'est en fait c'est à ce moment-là que tu t'es dit
C'est ça, à ce
le champ.
moment-là.
Ah.
C'est juste, je connaissais, en fait, je trouvais ça
Ouais.
intéressant. Et surtout, en fait, avec les crèmes, les baumes à l'huile de
Ouais, c'était
chanvre,
ça.
et qui étaient vraiment pas mal. Alors, ça guérit pas l'eczéma, mais ça aide vachement. Donc, plutôt que d'avoir des crèmes médicamenteuses en alternance, je me suis dit, purée, c'est quand même une super plante. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de me renseigner sur qui faisait quoi. Et en fait, il n'y avait plus rien en Alsace, et je me suis dit, hop, c'est parti, il y a un défi à se lancer, on verra si ça marche ou pas, quoi.
Et quoi, t'as acheté un paquet alors de... Enfin.
J'ai acheté un. Comme par.
Quand tu t'es dit, ouais, je vais faire de l'huile, comment ça se passe? T'as regardé partout, tu
Bah,
t'es
j'ai
dit.
appelé, c'est ça, j'ai appelé différents fournisseurs, enfin des gens qui vendaient de la graine. Alors, au début, il y a différents débits, ceux qui vendent de la graine pour l'alimentaire, je trouve ça fait un peu cher. Jusqu'à après, aller acheter à une chanvrière, donc c'est, on va dire, une sorte d'usine qui va en fait traiter le chanvre, grosso modo, c'est plus la paille en général, il peut aussi traiter la graine, etc. Et pour faire un test, je dis, bah écoutez, voilà, j'aimerais juste vous moyen un échantillon, je sais pas, 20 kilos. Donc on a commencé avec 20 kilos, après on a trouvé un autre agriculteur dans le Grand Est, en plus local. Et là on a pris, je crois, une demi-tonne.
Ah ouais, t'es passé de 20 à une demi-tonne.
Ouais, mais 20 kilos, ça fait pas beaucoup, hein. 20
Ouais.
kilos, ça fait, tu divises par 4, ça va faire 5 litres. Un peu même pas, 5 litres. C'est que la presse, on sera 4 litres aujourd'hui. Donc c'est 4-5 litres d'huile, c'est pas non plus énorme. Et après, avec 500 kilos, bah pareil, tu divises pas. Aujourd'hui, même par 5, t'es à 100-125 litres à peu près. Donc c'est pas non plus. C'est pas une graine qui est très rentable, entre guillemets, en termes d'huile. Mais du coup, non, il faut certains volumes. Donc ouais, c'est ça, on a comme une demi-tonne, on avait pris pour continuer à faire, après vendre la graine entière. Et puis maintenant, là, on a déjà passé dans plusieurs tonnes cette année. Et le but, c'est d'avoir. Là, on a 20 hectares de chanvre. Et c'est l'équivalent, ça va faire, je sais pas, 15 à 20 tonnes à peu près. Donc là, c'est notre objectif, c'est de. On pense avoir besoin de 15 à 20 tonnes là cette année, entre la rentrée prochaine, pour les magasins qui ont travaillé, pour les salons, pour les restaurateurs.
Et t'avais quoi les premiers tests avec ta famille ou des
C'est
potes?
ça, j'ai fait plein de bouteilles que j'ai données à gauche et à droite.
Ouais.
Donc après, voilà, il y a des gens que ça intéressait, d'autres que ça intéressait moins. À des restaurateurs aussi, et après j'ai goûté plein plein d'huiles différentes, on a pressé aussi après plusieurs variétés différentes, donc j'ai pu me faire une idée un petit peu des goûts qu'il pourrait y avoir en fonction de la variété de chanvre qui était cultivée, et puis finalement voilà, on a décidé qu'on travaillerait avec un premier agriculteur, qui était pas de l'Alsace, qui est pur en Alsace, et puis dans la foulée on cherchait des gens pour faire du chanvre. Et donc là on y est, puis on a une nouvelle variété que j'ai pressée en test en septembre dernier. On a déjà appelé par une chanvrière en demandant cette variété-là, est-ce que vous l'avez, cette nouvelle variété graine? On me dit ouais, on en a, j'envoie un échantillon pour faire un essai. Et on l'a pressée, elle a un super goût en bouche, en huile. Elle aura moins un goût de noisette, a priori, mais elle aura un goût floral vachement intéressant. Enfin, vous verrez, il y aura une nouvelle huile qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Et c'est assez atypique par rapport aux autres huiles de chanvre. Elle est très douce, elle est très sympa et on a hâte enfin, que la récolte se passe bien. Déjà, c'est une première chose,
C'est
faut que ça
celle-là
se
que t'as
passe bien.
planté, la
C'est
nouvelle?
ça, ouais.
Ouais.
On a hâte que ça se passe bien jusqu'à maintenant. On a hâte que la récolte se passe bien, que les graines soient de bonne qualité. Et si c'est le cas, on sera ravis de vous proposer des super produits d'ici l'automne.
Et donc, tu t'es dit, c'est quand même plus rentable d'avoir un champ?
Bah, en fait,
Ou l'aventure est plus marrante d'avoir vraiment son champ?
En fait, les champs ne nous appartiennent pas, c'est on demande aux agriculteurs
Oui.
de faire entre guillemets une certaine quantité de champs en fonction de nos besoins, quoi. Et non, mais nous, on voulait absolument se placer de tous les côtés, dans le sens le côté agriculteur, le côté artisan, on presse nous-mêmes l'huile, on a fait la farine brute aussi. Après, les autres choses, on les fait faire avec des transformateurs locaux ou des producteurs. Enfin, on a une savonnière locale qui était d'ailleurs à la visite des champs de chanvre. On a une savonnière, après on travaille avec un meunier pour la farine. On a une personne qui. Enfin, on a une entreprise qui a adapté une décortiqueuse pour le chanvre aussi. Donc voilà. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on arrive à tout faire en local. Et c'est ce qu'on essaie de prôner, c'est de dire si on travaille avec des gens, c'est dans la mesure du possible et même quasiment tout le temps, uniquement dans un rayon. Voilà. Notre but d'ici la rentrée, ce serait 80-100 km de pouvoir travailler avec des personnes. Et on voulait se passer de tous les côtés pour bien comprendre toutes les démarches, le côté agriculteur, ses besoins, ses problèmes, le côté artisanal pour vraiment faire le produit, le travailler, savoir en parler et pas être juste entre guillemets une marque qui propose des produits qui fait faire aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe. Voilà, on voulait vraiment voir tout le process, tout faire nous-mêmes. Voilà, pour commencer, bien comprendre tous les besoins de tout le monde et arriver à parler parfaitement de cette plante-là et sous tous les aspects. Donc aujourd'hui même, on arrive même à parler avec les agriculteurs, leur expliquer la culture ou même les démarches à faire par rapport à cette plante-là, parce qu'on s'y est vachement intéressé, parce que on est en contact direct avec les agriculteurs. Là où on était dimanche, on a un très bon contact avec lui. Donc grosso modo, il dit, bah, écoutez, vous venez quand vous voulez, faites vos photos, faites vos visites, ça fait parler du chanvre, bah, c'est super, tant mieux. Moi j'en fais un peu cette année, ça se passe bien, je vous en fais carrément plus l'année prochaine, et c'est une culture qui l'intéresse énormément, donc tant mieux.
Ouais, vous êtes entouré de bons acteurs locaux, quoi,
Bah,
pour.
petit à petit, à force, on rencontre des bonnes personnes, effectivement, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui sont contents de la dynamique. Même là, voilà, il y a des personnes qui ont des magasins bio depuis 20 ans, qui sont proches de la retraite, ça fait 20-25 ans qu'ils se disent « purée, nous on fait ça », et il n'y a pas de jeune qui fait ce qu'on a fait nous il y a 20 ans. Et là, ils se disent « purée, c'est bien, ça fait 5 ans qu'il y a des jeunes qui sont, voilà, pas des trentenaires, qui sont même pas forcément du milieu agricole ou du bio, etc., qui se lancent dans des projets comme ça. » Il y a nous, mais il y a plein d'autres projets qui existent. Et ils sont vachement contents, quoi. Ils se disent « purée, ils nous soutiennent à fond », et voilà. Puis même, de fil en aiguille, ils attendent ce qu'on fait. Enfin, ils aiment ce qu'on fait, que ce soit nous d'autres entreprises. Hein. Et du coup, ils en parlent à d'autres personnes, ou ils ont des contacts, ça fait 20 ans qu'ils font ça. C'est pas aller voir lui, cette personne-là, lui il est sérieux, lui il est bien. Et donc, voilà, finalement, on tombe sur des gens qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus carrés dans ce qu'ils font, et qui sont prêts à nous aider, nous soutenir dans ce qu'on fait. Et puis, voilà, ça se développe bien. Franchement,
Vous
on est
avez
content.
construit un bon réseau.
C'est ça.
Et ça fait quoi de travailler avec son frère?
Ça fait quoi? Alors, c'est.
Enfin, il a 50, vous êtes quoi, 50-50
C'est ça, enfin, voilà, j'ai un peu plus, vu que j'ai commencé seul au début, on en a parlé, on s'est tout mis à plat, et on est à 60-40. Donc là, moi j'ai un peu plus, parce qu'on a commencé comme ça, mais vu le boulot qu'il arrive à fournir aujourd'hui, je lui ai déjà proposé à l'occasion de faire effectivement 50-50. Mais non, bah, c'est toujours cool l'aspect familial, mais après il y a aussi les avantages, les inconvénients de travailler en famille, quoi. C'est pas la même chose que c'était qu'un employé ou qu'un associé qui serait différent. Mais non, je suis vachement content de travailler avec lui. Voilà, quand je suis un peu plus fatigué ou voilà, j'en sais rien, que je suis malade ou que je suis moins en forme, ou lui il est là, j'essaie d'être là aussi quand il a besoin de souffler aussi à un moment donné. Donc voilà, je suis quand même, c'est important parce que d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter au quotidien, même si ça, voilà, que son le lot de prise de tête et d'embrouilles que ça, de travailler en famille, voilà, je suis quand même très content de travailler avec lui.
Bah, c'est difficile toute association en fait.
C'est ça, ouais. Après, quand c'est un frère, ou quand un membre de la famille, même des fois un ami, on n'a pas la même relation, voilà, c'est pas pareil, je trouve. La prise de tête peut être plus facile qu'avec un employé ou si c'était avec un associé qu'on ne connaît pas, entre guillemets, enfin, un associé, quelqu'un qui a un intérêt commun. Donc voilà, c'est toujours compliqué, ça c'est sûr, c'est jamais évident. De toute façon, la relation avec les gens, c'est jamais évident. Mais voilà, après en famille, voilà, je sais que je me prendrai pas la tête quand je me prends la tête avec mon frère, ou je me permettrai pas de m'embrouiller avec lui ou lui avec moi de la même façon que si c'était avec un associé ou avec un employé, par exemple.
Et est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans cette aventure?
Ah, mais.
Non, mais des moments, genre un particulièrement, je pense que oui, il y en a, il y a toujours des phases de down, etc., tous les jours,
Bah,
mais.
on aurait dû s'installer en septembre dernier, et on s'est installé qu'en novembre. C'était vraiment un problème parce qu'on avait la récolte de chanvre qui avait été faite. Il fallait qu'on stocke des choses déjà, on voulait commencer à produire, on avait des volumes qui augmentaient. C'était compliqué d'aller continuer à presser la petite huilerie artisanale là on était. On avait déjà acheté la presse. On a pris du retard. C'était pas bon dans tous les sens, c'est-à-dire pour l'installation, même pour le démarrer vraiment l'activité, pour fournir, pour commencer à distribuer. Ça, c'était galère. Et avec le lot de problèmes qu'il y a à chaque fois, quoi, c'est un nouveau local, il y a des travaux, des choses à faire. On met les choses en place, après on découvre qu'il y a plein de. Voilà. Mettre bien protéger les locaux, parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a des champs à côté qui pourraient avoir des souris qui viennent, bien protéger ça des intrants, des insectes, des choses comme ça. C'est là des petites galères, ou alors après des fois on reçoit de la marchandise qui est pas bonne du tout, enfin de la marchandise, de la matière première, il y a un lot qui est oxydé ou qui est rance, du coup c'est encore une perte de temps, il faut renvoyer ça, faut en reprendre un autre. Voilà, il y a toujours, et puis ouais, au quotidien, il y a toujours des problèmes tous les jours à résoudre. C'est ça, franchement, c'est je me lève le matin et je sais pas, en fait. Ça qui est bien et pas bien, c'est que je sais pas vraiment ce qui va se passer, c'est que c'est intéressant et stimulant, mais d'un autre côté, il y a des fois où c'est que des problèmes à gérer. Des fois, c'est trop souvent ça, des fois, c'est gérer des problèmes, quoi.
Ouais, mais ça c'est le début aussi.
Non, c'est ça, mais après, je pense que tout court, hein. Je pense que. Quand on a une entreprise, à un moment donné, même en plus les grosses entreprises, moi j'imagine même pas. Je pense que les patrons, les gros patrons, ils font beaucoup ça, quoi. Gérer des problèmes toute la journée.
Alors quand j'ai parlé avec que ce soit Jules qui est la Choukmap, je pense que tu connais,
Ouais, de
ou
nom.
Thierry, le CEO de Bigelstein, bah, plus la boîte elle est grande, plus il y a des gens qui règle les problèmes avant toi.
Ah, c'est ça,
Et si
oui.
le problème il vient chez toi, ça veut dire que vraiment il n'y a eu aucune réponse possible.
Possible jusque-là.
Ouais, donc normalement tu as de la marge pour respirer, mais bon, avant d'arriver à créer
Ah, mais c'est
un
sûr, ça devient
process
plus.
comme ça.
Bien sûr, ça devient plus facile, effectivement, entre guillemets. Même gérer les problèmes au quotidien, à force de gérer au début un petit problème, ça paraît un énorme problème. Après, au bout d'un certain temps, les petits problèmes, c'est bon, bah, c'est le quotidien, c'est pas grave, on arrive à les
Ouais.
gérer facilement. Et après, petit à petit, effectivement, ça évolue et on a moins certains problèmes. Mais je pense qu'au quotidien, il y a jamais rien qui marche comme on veut. Il y aura toujours des retards de livraison, il y aura toujours des problèmes avec, je sais pas, de la marchandise, je sais pas, il y aura un problème technique au local, la clim qui lâche, enfin des choses comme
Ouais,
ça,
mais il
je
y
pense.
aura toujours des... Au moins, il y aura des gens...
Bah, c'est ce qu'on enfin, on espère, ouais, effectivement. Pour
Que...
l'instant, on n'y est pas
Oui,
encore, mais
au
ouais,
début,
c'est.
qui t'occupe de tout. Genre, c'est toi qui dois nettoyer les toilettes, toi qui vas faire des
Ah, ouais.
tâches ingrates, c'est toi qui dois les faire, mais à chaque fois, en
Ah,
fait.
tu on fait tout, c'est ça, tu nettoies là, on fait tout nous-mêmes, voilà, même après, même les livraisons, on fait encore majoritairement, sauf quand c'est loin ou des très gros volumes, on fait tout nous-mêmes, donc on se déplace, il faut tout faire. Voilà. Quand on commence au début, on a toutes les casquettes, quoi, on est commercial, agent d'entretien, technicien,
Comptable.
comptable, voilà, il faut tout faire au début. Voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup de choses d'un coup, puis après on prend le pli et on
Bien.
arrive à bien le faire, quoi.
Ça devient la routine.
C'est ça, voilà, c'est un peu ça.
Et un jour, tu auras un peu moins de problèmes à gérer, ça fera bizarre, tu crois. Ça va, ça se passe? Non, non, t'inquiète, il y a tous les autres qui ont réglé, tout va
Ah
bien.
bah j'ai hâte de ce jour-là, dans ce cas-là, mais ouais, c'est vrai que. Non, j'ai hâte, mais bon après. Là je le vois déjà que ça va déjà mieux par rapport à, je sais pas, l'année dernière par exemple. Hein. Je vois que lancer un produit, c'est moins compliqué. Voilà. C'est toujours aussi coûteux, mais c'est toujours. Mais c'est moins compliqué qu'avant. Il y a un rythme aussi qui se crée. Voilà, les étiquettes, on les fait une fois, deux fois, puis après on les adapte, donc c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Créer l'étiquette au début, on va faire ça vraiment bien, parfaitement, puis après on se dit bon voilà, bah, j'ai fait mon modèle de base, après je l'adapte, donc j'ai pas à refaire tout ce que j'ai
Ouais.
fait, j'ai pas passé des heures de nouveau dessus, donc on gagne du temps sur tout. Et puis après on a des fournisseurs qui sont voilà, fiables, qui savent que ce qu'on veut, comment on travaille, donc on apprend à se connaître mutuellement, et on avance bien comme ça. Voilà.
Et t'as eu des doutes?
J'ai des doutes, moi j'ai voulu arrêter franchement je pense 10 fois ou 15 fois, hein, à peu près, si c'est pas plus de 100 fois, j'en sais rien, il y a plein de fois où je me suis dit que je vais arrêter, hein. C'est juste pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop de boulot, enfin on fait quelque chose, enfin, personne le fait, on est les premiers à le faire en Alsace, entre guillemets, et c'est quelque chose qui est assez novateur dans le sens où ça fait bah, vraiment 10 ans que ça se développe, 5 ans que ça se développe, et en fait on est en train de réapprendre à tout refaire. Nos ancêtres il y a 100 ans savaient tout faire, et là on est en train de trouver des techniques ou adapter des machines, c'est compliqué, c'est pas évident, il faut faire plein de choses, donc c'est tout réapprendre. Il n'y a pas d'expérience d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui ouvre un restaurant, bon voilà le restaurant, tout est fait, enfin, y a
Ah, c'est connu le process
Le
pour
code
un restaurant.
process, il y a les sociétés qui font les restaurants, il y a Métro à côté, enfin les
Mais oui.
fournisseurs, tout est là, c'est pas compliqué de se lancer, de démarrer. Après, bien sûr, je dis pas que c'est facile la restauration, j'ai fait 10 ans, c'est même très compliqué, mais au moins se lancer, il y a un cadre qui existe déjà. Nous, on arrive, faut tout faire. Le cadre législatif, bah, vu que, entre guillemets, c'est lié au cannabis, bah, c'est pas évident non plus.
La meilleure plante, pas compliquée du
Voilà,
tout.
c'est ça. Donc il y a tout qui est compliqué. Il y a le côté agricole. On n'est pas du tout éleveur. On n'est pas agriculteur. J'ai pas fait lycée agricole. Donc non, c'est.
Non, mais il y a des possibilités, voilà, tu t'associes avec des
Ah non,
agriculteurs
c'est
comme
ça.
t'as
Non, bien
fait.
sûr.
Parce que même se lancer là-dedans, le coût d'une machine, t'as envie de pleurer, le
Ah non,
coût
bien
d'un
sûr. Mais
champ,
si. Non,
c'est
mais
impossible.
je veux dire, même nous, là, on a acheté une presse à huile, effectivement. Mais si on devait acheter une décortiqueuse ou les machines pour faire de la farine, entre guillemets. Mais là, c'est
Non.
délirant. Enfin, là, c'est même pas rentable. Et heureusement qu'entre guillemets, il y a des personnes dont c'est le métier ou qui proposent ce genre de service-là. Parce que pour commencer, c'est juste trop bien. Parce qu'on peut commencer comme ça. Après, c'est sûr que si on faisait tout en interne, on peut encore réduire des coûts. Mais je veux dire, on n'a pas du tout les volumes, on n'est pas à ces volumes-là, quoi. Si un jour, effectivement, on a des très gros volumes et on se rend compte que c'est plus intéressant de le faire en interne, ben on le fera en interne. Mais non, au début, il faut commencer petit, faire les choses voilà, petit à petit et optimiser ses coûts. Voilà.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de boîtes, même très grosses, qui continuent à déléguer le travail là parce que c'est trop d'argent de d'acheter un complexe exprès
Ah bah
pour
oui, il y a plein de
ça.
gens qui sous-traitent,
C'est
mais
ouf.
tout, hein, que ce soit sous-traiter les services ou alors après même sous-traiter les employés, hein, par exemple l'intérim, etc. Parce que ça demande moins de boulot. Après, ça dépend ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on veut maîtriser de A à Z ce qu'on fait. Et là, c'est intéressant, c'est que nous, on est assez tatillon sur ça, ou sur les partenaires, les gens qui vont travailler, sur la qualité de ce qu'on va faire. Ou est-ce qu'on dit, bon, on sous-traite, mais avec le lot de problèmes que ça a aussi. Parce que, voilà, si on peut dire à des gens de faire ça, mais ce sera jamais exactement comme on veut le faire. C'est pas des personnes qui le font, c'est pas leur entreprise, donc ils font un service ou un produit. Et voilà, ce sera jamais aussi impeccable que si on le fait en interne ou si c'est fait selon nos propres règles. Voilà. Alors c'est bien, effectivement, on a des bons partenaires et ils le font bien, mais il y a toujours moyen d'améliorer, de faire des choses en interne. Ça dépend de la gestion qu'on cherche à avoir. Est-ce qu'on veut vraiment le côté, on veut montrer toutes les machineries, le côté artisanal et maîtriser de A à Z sa production? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, en fait, je vais un peu laisser ça à des gens qui savent le faire. Et du coup, plus m'attarder au développement de l'entreprise, du commercial, la communication. Ça dépend ce qu'on cherche à faire, quoi.
Ça sera peut-être un projet plus tard, quoi, d'ouvrir.
Non, pourquoi pas? Après ça, que là, on commence, on fait tout nous-mêmes.
Oui.
Mais après, non, petit à petit, bien sûr qu'il y aura d'autres choses qui seront plus faites par nous, forcément, où on arrivera à sous-traiter. Puis voilà, après, quand on a une gamme qui s'élargit, un volume de produits, on peut plus pas tout faire nous-mêmes, c'est pas possible. Après, il faut de toute façon recruter ou externaliser.
Non, à deux, c'est compliqué.
À deux, c'est compliqué, ouais. Mais le but, c'est de faire le plus possible tous les deux. Puis après, quand on voit que c'est plus possible, tout ce qui est, voilà, les tâches, hein, qui sont surtout longues, qui sont chronophages, enfin, là, on conditionne tout à la main. C'est super long. Il y a des sociétés, c'est leur travail, ils arrivent à conditionner ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a des ESAT, c'est avec les travailleurs des
Mais
fois handicapés,
c'est ce qu'elle
etc.
fait, les cartes de Lulu.
C'est ça, ouais.
Elle
Mais
fait
il y a
ça à
plein
Mouneuse.
qui passent par ça, et ça, du coup, bah, c'est nous quelque chose qui nous intéresse. Pour l'instant, on le fait nous-mêmes, mais les volumes vont augmenter. C'est le genre de service, clairement, qu'on aimerait aussi utiliser à court, moyen terme, là, avant la fin de l'année, j'imagine. Parce que là, ça, une journée entière en sachet, on pourrait faire plein d'autres choses à côté. Et voilà, si en plus on peut faire effectivement travailler des gens qui sont en situation de handicap et qui peuvent faire ce genre de métier-là, ou alors qui sont limités pour faire d'autres choses et qui peuvent faire ça, bah tant mieux, nous, c'est pas fait de faire d'autres choses à côté, quoi.
Donc c'est malgré tout une belle aventure. Enfin, on a tous des phases de down, on se demande pourquoi
Ah
on est
non, bien
là.
sûr.
Et après on a tellement le love à se dire non, c'est trop bien.
Mais ah non, mais c'est ça, c'est. Franchement, ce qui fait plaisir, bah, c'est le retour des gens, c'est le fait que les produits soient achetés, que les chefs de magasin comme les clients apprécient ce qu'on fait, ils apprécient le projet. Donc voilà, tous les jours, il y a des problèmes, des fois on se dit purée, le problème il est insurmontable, ou c'est trop compliqué, ou je perds trop de temps, ou je perds trop d'argent. Et en fait, non, on apprend qu'on peut se relever de beaucoup de choses et qu'il faut quand même persévérer. Et voilà, si c'est un peu dommage de se dire de s'arrêter, entre guillemets, juste avant la ligne d'arrivée. On a fait tout le chemin. Il reste pas forcément grand-chose, ça part encore un peu beaucoup ce qui reste, mais par rapport à tout ce qu'on a parcouru, il faut se motiver, quoi.
En un an, vous avez quand même
Ah non, on a
fait
fait.
un bond de kangourou énorme, je trouve.
Mais moi, ça me paraît pas assez, ça qui est fou.
Oui.
Je pense que ce sera. J'ai toujours l'impression que tout va trop lentement, que tout est retardé, que tout aurait pu faire. Enfin, la farine, ça fait un an qu'on travaille dessus, par exemple, avec différentes personnes. Non, mais après, de manière objective, on a fait beaucoup de choses en un an. On a fait énormément de choses en un an. À mon goût, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore plus. Mais non, mes amis, notre entourage, même les magasins, ils disent bien purée, ce que vous avez fait, même pendant le confinement, on a sorti trois produits pendant le confinement. Et malgré ça, malgré le confinement, avec les magasins bio, etc., on a quand même réussi à lancer ces produits-là et ils ont plu. Donc,
Bah,
même malgré le confinement, ça a quand même réussi à marcher, quoi.
t'as pas eu peur de dire on va le lancer pendant le confinement, pourquoi t'as pas attendu?
Parce que c'était prévu, tout était déjà fait en fait. C'est-à-dire qu'on avait toute la production qui était faite,
Ah oui.
qui était prête, juste avant le confinement. Et on a le confinement après, voilà, qui est tombé juste après. Mais en fait, l'air de rien, les magasins bio comme les magasins tout court sont un peu faits dévaliser. Et on nous a commandé des produits plus rapidement. On a pu aussi placer ces produits cosmétiques en disant, bah, écoutez, on a ça, si ça peut vous intéresser. Donc il y a pas mal de magasins. Puis après, la vente en ligne aussi. Donc on était sur La Ruche qui dit oui, ou même sur notre site à nous. Et les gens achetaient en direct. Et du coup, ah tiens, de la cosmétique, ah tiens, c'est intéressant. Et d'autres gens qui ne connaissaient pas du tout, qui ont vu des produits cosmétiques et qui après sont intéressés à l'alimentaire. Donc ça a ouvert carrément nos produits à beaucoup plus de monde. Des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à ça, qui ont vu l'aspect cosmétique et qui maintenant s'intéressent à l'aspect alimentaire et vice versa.
Donc le Covid n'a pas été, enfin, a été dur ou ça?
Ah non, le Covid c'était terrible parce qu'on a eu 2 mois d'annulation de salons, de gros salons à travers tout le Grand Est. Mais malgré ça, entre guillemets, c'est la vente directe qui nous a un petit peu sauvés. Ça permet de sauver les meubles. Hein. Bon, malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on voulait comme chiffre d'affaires, mais voilà, ça a développé ça. Et c'est une bonne chose finalement parce que les gens nous ont connus et on a pu vendre en direct. Et voilà, donc c'est un bien pour un mal. Voilà, on aurait préféré plutôt faire des salons pour se faire connaître et on avait beaucoup transformé, on avait acheté beaucoup de graines entières pour les transformer, on avait fait tout ça en amont pour finalement se retrouver avec pas mal de stock.
Et vous avez offert aussi des crèmes
C'est
aux
ça.
infirmières ou...
Ben en fait, dès les premiers jours du Covid, on a offert au NHC, au service de RIA du NHC, on a fait, bref, et on avait vu ça, et puis on a offert, je crois, une soixantaine de sachets de graines décortiquées entières. En fait, je parle avec une infirmière du service qui me dit qu'il mange un peu à l'arrache, il bosse 12 heures par jour, il mange un morceau de pain avec un carreau de chocolat, enfin, je caricature, mais ça, à peine, ça doit être ça. Et j'étais là, purée, les gars, ils bossent toute la journée, ils sont, entre guillemets, au front, et ils mangent peut-être mal. Donc là, c'était de se dire, bah, on va leur donner ça, parce que la graine décortiquée, c'est plus protéiné que la volaille, que le poulet. C'est riche en oméga-3, en oméga-6, en fibres, non pas en fibres, pardon, en vitamines, en minéraux. C'est un bon booster. On s'est dit, bah là, ça pourrait peut-être en encas. Ils s'envoient une cuillère à soupe. Franchement, c'est grave meilleur qu'un morceau de pain, un petit carré de chocolat. Même si c'est enfin, gustativement, c'est bon, mais bon, au niveau de l'énergie pour eux. Et après, on avait un EHPAD où on avait notre grand-père là-bas, d'ailleurs. Et on a, bah, pareil, il se lavait les mains 1000 fois par jour. Et donc on aura offert aussi les baumes qu'on a, on leur a offert des baumes au service. On a c'était pas à notre petite échelle, on s'est dit bon voilà on peut participer. De toute façon nous on était un peu au ralenti, un peu down, on avait de la marchandise, c'est périssable. On s'est dit bon voilà écoutez, tant qu'à faire, tant faire profiter les gens. Et puis voilà, on vendra pas autant qu'on devait vendre, donc bah tant pis.
Les retours, ils étaient bien,
Bah,
c'était
les
bon.
retours, ouais, ils étaient contents. Alors, pour l'alimentaire dans le service du NHC, elle nous avait dit que les gens étaient contents. Elle adorait. L'infirmière en question, après, elle a dit c'est quand même vachement nouveau pour beaucoup de monde. Quand je leur ai montré, c'était
Oui.
genre ah, ok.
Qu'est-ce qu'on va nous faire manger?
C'est un peu ça, mais non, apparemment c'était bien reçu. Et par contre, à l'EHPAD, ouais, c'était très bien reçu. Ils trouvaient que c'était vachement bien. Ils ont beaucoup apprécié les crèmes, quoi. Donc on était contents. J'ai pu me rencontrer les infirmières, ils ont encore remercié pour ça. Enfin, nous on les remerciait, elles s'occupaient de notre grand-père. Enfin voilà.
Mais
Donc.
ça fait un gros test de masse, tu vois, pour voir si
Bah ça
tout
aussi
le monde
c'était
est
même c'est
content, un
ça
bon
c'était
feedback.
même pas forcément le but à la base, mais c'est
Oui.
vrai que finalement on a eu un bon retour. Non, ils ont envoyé des photos et tout avec les produits, donc ça faisait plaisir.
Moi, tu dis, là, tu dis qu'il y a un sens, tu vois.
Non mais tu sais, ça fait non mais clairement on s'est dit voilà, il y a des gens qui comme nous qui travaillaient hein, pendant le confinement, on a travaillé, on a continué à faire un peu de la production aussi, enfin de finir la production. On allait livrer, on a aimé des marmelades à Alsace à livrer parce que lui s'est retrouvé, bah, il fait de la vente à la livraison à domicile. Et ils étaient deux, lui un employé, je crois qu'à la fin du confinement ils étaient quatre. Et moi la première semaine je me suis dit bah nous on va être tellement down qu'il n'y aura rien à faire. Je lui ai dit écoute si tu veux moi je viens t'aider quelques heures au début. Finalement c'est passé quelques heures je l'ai aidé plusieurs dizaines d'heures je crois sur 2 semaines. Et on l'a filé un coup de main, et puis après, finalement, il a pu recruter, il a bah, un staff maintenant. Mais du coup, non, c'est ça, on a aidé aussi Marmela tout de suite. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, nous, c'est foutu. Lui, il va se faire déchirer le pauvre, et on a envie de se continuer à se rendre utile. Donc, bon, on a pu faire ce qu'on a pu faire avec les infirmières et avec Marmelade. Puis après, l'activité, on a eu les produits qu'on a lancés, et on a un peu travaillé. On avait moins de temps pour les autres, il fallait qu'on travaille pour nous de nouveau. Donc ça s'est quand même relancé, puis ouais.
Moi, je voudrais savoir maintenant, quel est ton plus grand défaut?
Mon plus grand défaut,
Au
je
niveau...
pense que, ça mon frère me le dira aussi, hein, c'est que Je pense que j'arrive à passer des heures. En fait, je perds du temps. Je pense vraiment que je perds du temps à penser à trop de trucs. Genre à me perdre dans mes pensées. Enfin, pas me perdre dans ce que je. Au lieu de rester concentré des fois sur des choses, j'arrive à. Je veux trop me projeter trop loin dans l'avenir. Je pense à trop de choses en amont. Et ouais, je pense que c'est ça. Au lieu d'être à se dire, voilà, faut faire ça maintenant, tout de suite. Et j'arrive à prendre trop de temps ou même quand je vais faire, je sais pas, mes étiquettes, j'ai pris des heures, si c'est pas des dizaines d'heures à le faire. Je pense qu'au final, j'aurais pu prendre la moitié du temps. Ça aurait pas été aussi bien, mais ça aurait été déjà très bien. Enfin, en tout cas, ça serait déjà pas été pas mal. Et donc, ouais, je pense que ça. Je pense que des fois, quand on se dit qu'on a une heure pour faire quelque chose, on arrive à le faire en une heure, mais si on dit qu'on a 10 heures pour le faire, on va aussi prendre 10 heures pour le faire. On va, je sais pas, on va choisir toutes les couleurs différentes. Alors qu'on se dit, bah là t'as une heure pour faire quelque chose, fais-le. Je pense que des fois c'est suffisant. Et même si c'est pas le résultat, il est pas parfait, il sera même très bien. Mais dans l'entrepreneuriat, dans une entreprise ou même dans la vie en général, une heure de temps, 10 heures de temps, il y a une grosse différence, quoi. On peut faire beaucoup de choses en 10 heures. Plutôt que de faire une chose en 10 heures, on fait en une heure. Donc, je pense que ça, c'est mon plus gros défaut, c'est ça, et que je veux que tout soit impeccable, voilà, un peu à ce côté-là, perfectionniste entre guillemets, mais qui ralentit, je pense, des choses.
Bah, tu peux être comme là j'ai entendu le je sais plus comment il s'appelle mais le propriétaire enfin le celui-là qui a créé Airbnb, lui il a Airbnb sur une vision sur 200 ans, tu vois. Donc tu non
Ah
mais il sait
ouais,
vers quoi il
ok, non,
va,
moi,
tu
non,
vois.
moi je suis pas. Non, moi
Non
je
mais
suis. Ok,
tu peux
ouais.
avoir une vision du chambre de ta boîte sur 10 ans facile alors.
Ben moi, sur 5 à 10 ans, j'arrive à avoir. Enfin, je me dis tout ce qu'on peut faire, tout le potentiel qu'il y a sur le chanvre, et là, non, alimentaire et cosmétique, même sur d'autres choses. Je me dis qu'il y aura encore plein d'autres projets à mener dans le chanvre, mais je veux dire, mais pas comme, en local, en France, en Europe, dans le monde entier, il y aura plein, plein de choses à faire. Donc, et non, après, j'ai plein d'idées, ben, de valorisation, en fait. Même là, quand on décortique la graine, la coquille vide, sans amande. Ça peut être utilisé pour plein de trucs, même pour des coussins, pour fourrer des coussins. Il y a plein de choses où on se dit, en fait, on peut utiliser toutes les parties de la plante pour faire vraiment énormément de choses. Alors je me dis que la valorisation du chanvre en général, elle est presque infinie. Et donc à chaque fois, j'ai plein de choses. Attends, ça c'est top, on pourrait mettre ça ensemble et tout. Donc, je réfléchis à plein de choses. Alors, mon frère, il est là, il me dit, ah, c'est cool, c'est presque utopiste, mais c'est bien parce que tu vois les choses dans le temps. Mais après, il faut aussi rester un peu connecté, se dire, bon, voilà, maintenant, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout de suite. Ça fait aller dans le coin de la tête. De toute façon, ce ne sera pas possible avant des mois ou des années. Donc, au lieu de se prendre la tête à réfléchir à ça pendant des heures, on fait ce qu'on peut faire maintenant, puis on fera ce qu'on pourra faire plus tard, plus tard.
Bah, ça me fait penser à une phrase qui dit que les entrepreneurs vivent le futur au présent.
C'est un peu ça.
C'est un
Ouais,
peu ce que tu vis en fait.
bah non, c'est ça, effectivement.
Et ouais, il faut l'accepter. Des fois, ça peut être,
Non,
ça peut être
oui.
embêtant, quoi.
C'est ça, oui, bah, ça va être embêtant, oui, non, après, il
Frustrant, non?
faut se projeter, frustrant, ouais, bah, après, il faut arriver à se projeter, hein, faut avoir une idée, faut rester pas trop s'éparpiller non plus, mais rester, voilà, faut rester pas trop s'éparpiller, mais rester ouvert, c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte?
Que je déteste faire dans ma boîte, non, franchement,
Non, mais
détester.
un truc, franchement, si tu pourrais pas faire. Genre,
Franchement, mais après,
ou
voilà,
tu
c'est pas
délègues déjà à ton
que je lague déjà à mon
frère.
frère. Bon, le nettoyage, c'est pas que j'aime pas. Je suis jamais chaud à le faire en amont, mais quand je le fais, je m'y mets à fond. Mais c'est genre me motiver à faire les nettoyages. Enfin, quand on fait une campagne de presse dans le labo, qu'il faut tout nettoyer, les fûts, etc., des fûts de 100 litres, ça prend du temps. Motiver à le faire, ça me demande de l'énergie, mais une fois que je suis dedans, ça va, j'arrive à le faire. Donc, on va dire ça, hop, voilà. Mais c'est juste la motivation de se dire, purée, là, j'ai des heures de nettoyage devant moi, et c'est pas évident, je me dis, juste ça. Mais sinon, franchement, le
Ça va.
reste, ça va.
Non, parce que même si quand on se lance ou dans un métier de salarié ou un métier d'entrepreneur, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas faire.
Ah non, mais c'est
Il y
ça,
a un
bah.
truc.
Ou alors des choses qui sont un peu plus aliénantes, qui sont pas très intéressantes, je veux dire, coller des étiquettes, remplir des sachets, c'est pas très intéressant.
Ce
Après,
que
il faut
t'aimerais
le.
déléguer, quoi, c'est ça?
Bah, à terme, effectivement, là, il n'y a rien de passionnant, entre guillemets, à faire ça. Voilà, si, c'est marrant au début, ouais, pourquoi pas. Mais après, passer un certain temps, c'est vrai que c'est des choses où je préfère, effectivement, on préférerait consacrer du temps à autre chose. C'est des choses, voilà, que d'autres personnes peuvent faire pour nous, qui sont pas compliquées à faire. Donc, voilà, après, c'est vrai que pour nous, on préférait mettre notre temps sur autre chose. C'est ça, mais ça me dérange, faut le faire, et ça me dérange pas de le faire non plus. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que, voilà, c'est. le côté le moins intéressant. Enfin, nettoyer, remplir les sachets avec les étiquettes, c'est vrai que c'est le moins intéressant de l'activité. Et après, voilà, il n'y a pas de sous-métier non plus, et puis il faut faire le
Non.
travail, et puis c'est comme ça, hein, voilà.
Mais t'as le droit d'avoir des trucs, ça te passionne pas, quoi.
Ah non, mais complètement, oui, voilà,
Du
bah,
coup.
ce qui est peu intéressant au final, quoi.
Même toi, par rapport à la valeur que tu mets dans ta boîte, perdre un jour à mettre des étiquettes, tu peux faire un jour.
À faire autre chose, voilà,
Ouais.
créer le packaging d'un produit, faire du commercial, à démarcher d'autres choses, voilà, il y a plein, plein, enfin, en une journée, pour moi, 24 heures, c'est trop court, voilà,
Ah oui, non, mais
c'est.
complètement.
Non, mais le problème, c'est que je me suis fait de me dire, il faut absolument que je finisse des choses tel jour. Et hier soir, je me suis couché à 2-3 heures du matin. Parce que je me dis, je veux que ce soit fini hier, parce qu'en fait, j'ai encore des choses à faire demain que j'ai prévues. Et j'ai pas envie de tout redécaler à chaque fois, parce qu'après, je perds trop de temps. Et là, y a des jours, malheureusement, voilà, bah, tu te lèves, il est 8-9 heures, et tu te couches, il est 2-3 heures du matin. Et des fois, c'est 2-3 jours comme ça. Mais voilà, il faut. Il y a du travail à faire, il faut arriver à s'organiser. Puis des fois, je me dis que je pense que je m'organise mal. Alors, tant pis pour moi. Si je suis mal organisé, il faut quand même que je fasse un certain travail. Il faut le faire. Et voilà. Donc, du coup, je me couche tard. Puis c'est comme ça.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager?
Une anecdote honteuse à vous partager. Enfin, on s'est fait voler du
Ah
chanvre
oui,
à
voilà.
plusieurs reprises, même sur le jardin. Enfin, on a un jardinier chez nos parents, on en fait pousser. Enfin, bref. Là-bas, ou même, ou je sais pas, ou leur des noms, même pas, après, c'est plus des gens qui réagissent en me regardant comme si je vendais de la drogue. Bon, ça, c'est très rare, franchement, c'est
Ouais.
extrêmement rare, mais j'ai eu une réaction assez drôle comme ça, où les gens me prennent pour un fou, ou pour un hippie, ou alors que les gens, après, je leur parle, je leur dis plein de choses, ils me disent, mais vous, là, c'est n'importe quoi ce que vous racontez, votre plante, avec tout ce que vous me dites, c'est une plante magique, je dis, ouais, plus ou moins, si vous voulez, ouais. Mais dire à sa femme, mais lui, il craque complètement. Et après m'écrire par mail ou me recontacter en me disant ah mais j'étais le monsieur à tel stand, en fait je me suis renseigné sur ce que vous disiez, en fait c'était vrai, c'est super intéressant, j'aimerais commander quoi. Alors ça me fait rire. Ça veut me
Ouais.
dire les gens qui après vont regarder eux-mêmes, mais je leur dis maintenant, mais si vous ne croyez pas, vous allez sur internet, hein, vous avez Google entre guillemets, et vous regardez vous-même et vous verrez que ce
Google
qu'on
Hit,
raconte c'est pas
quoi.
des conneries. Hein,
Ouais.
donc et du coup ça c'est marrant. Ça m'est déjà arrivé qu'on me rappelle en me disant ah ouais en fait vous aviez raison. Bah, je vous vends quelque chose et c'est bon, je sais pas de vous vendre tout et n'importe quoi, je vous raconte le potentiel qu'a ce que je propose, et puis voilà. Vous y croyez pas, après vous vérifiez chez vous ce soir si vous voulez, et puis effectivement, vous m'avez rappelé pour me dire oh, ah, mais c'est super et tout, voilà.
Ouais, parce qu'on peut pardon, te prendre pour un vendeur de tapis ou un
Bah,
vendeur de
quand on arrive
produits
à dire
stupéfiants.
tout ce que peut faire la plante, quand on dit bah, la plante, on l'utilise dans le bâtiment, enfin, bâtiment construction, dans l'automobile aujourd'hui, dans le textile, dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans le plastique végétal, dans le papier, que en plus écologiquement c'est super, qu'on arrive à capter plus de CO2 qu'une forêt à taille égale, qu'on dépollue les sols, qu'on pas besoin d'irrigation, ça reste à la sécheresse. Je dis, non, mais en fait, votre plante, elle fait tout, quoi. Ouais, elle fait tout, c'est ça, l'intérêt en fait de cette plante-là. C'est pour ça qu'il faut absolument que ça se redémocratise, c'est parce qu'elle est. Pour nous, indispensable, et qu'elle. Il y a une phrase de Jack Herer, c'est un militant pour le chanvre aux États-Unis, qui est mort il y a quelques années, mais qui a fait ça depuis les années 80. Il disait une phrase, c'est je sais pas si le chanvre va changer le monde, mais c'est la seule chose qui puisse le faire. Et après, il détaille en fait toutes les utilisations du chanvre, et si on remplaçait le papier par le chanvre, enfin, tout ce qu'on pouvait faire, en fait, il expliquait qu'il y a 20 ou 30 ans, qu'on pourrait vivre avec le mode de consommation d'il y a 30 ans, quand il l'a écrit à l'époque. 20 ou 30 ans, c'est ça. Si on remplaçait plein d'énergie par le chanvre, en fait, plein de matières premières par le chanvre. Donc voilà, nous on est persuadés qu'aujourd'hui, si on arrive à faire. S'il y a beaucoup de chanvre partout dans le monde, à nouveau, ça va changer de nouveau beaucoup de choses et la façon de consommer et les matériaux qu'on va utiliser. Donc
Ouais, donc s'il y a beau, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils peuvent tester plein de choses dans le champ.
il y a plein plein de choses à faire. Alors là, moi j'encourage des gens. Il y a rien qui se fait dans le textile en France. Enfin, en France, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent le tissu de chanvre, mais c'est plus fait en France. Il y a du plastique végétal. Il y a effectivement, il y a la fibre, on peut dire dans plein de choses. Hein, je veux dire, la Peugeot 308, le tableau de bord, je mets dans la carrosserie, ils ont de la fibre de chanvre. Dans les rétroviseurs, il y en a. Donc je pense que ceux qui veulent une matière première. Apparemment, il y a 25 000 utilisations du chanvre. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut tout faire avec le chanvre. Il faut même des batteries avec de la fibre de chanvre qui ont des meilleures capacités que les batteries actuelles. Donc moi, j'aime pas qu'elle limite ça. Il y a un Canadien qui a fait un avion quasiment intégralement en chanvre aussi.
Ah oui.
Donc voilà, ceux qui veulent lancer dans le chanvre, franchement, il y a tellement de possibilités. Donc allez-y, et ça pourra que aider cette filière-là et cette plante-là, parce qu'on peut vraiment faire énormément, énormément de choses avec.
Bah tu peux, ça se trouve, tu seras un des premiers acteurs du chanvre en France, donc tu sais pas où ça te mènera dans 10 ans, tu
Bon,
vois.
on verra dans 10 ans ce que ça donne, effectivement. Voilà, là on fait ça, je sais pas, dans 10 ans ce que ça donnera. Il y aura peut-être d'autres choses, d'autres projets. Peut-être que je serai dans le développement du chanvre en France ou dans un autre pays européen ou dans le monde, ou me dire voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en Alsace et en France. Maintenant, peut-être d'autres choses à mettre en place dans d'autres endroits, je
Ça
sais.
serait rêvé quand même, non? Ça serait
Ah, ça
sympa.
pourrait être cool. Moi, j'ai beaucoup voyagé, si je me dis voilà, maintenant voyager un peu plus responsable et ne pas aller à l'autre bout du monde pour 3 semaines et revenir, mais se dire bah, en fait, je vais aller quelque part pendant de nouveau 1 ou 2 ans, mais que ce soit à l'autre bout du monde. Voilà. J'ai beaucoup voyagé pendant 10 ans, j'ai adoré ça. Là, je me pose un petit peu, mais je pense que c'est la possibilité de repartir, j'en sais rien, moi, dans 5-10 ans, pourquoi pas.
Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
De rien lâcher.
Rien lâcher.
Ouais. Franchement, de continuer, de persévérer. Hein, franchement, et ça, c'est ma famille, même mes amis, qui m'ont poussé à ça en me disant, voilà, maintenant, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, il faut que tu continues, quoi. Ce
D'accord.
serait débile, ce serait con maintenant, ce serait con d'arrêter. Et voilà, par rapport à de rien en chanvre en Alsace à ce qu'il y a aujourd'hui, 20 hectares, on a une gamme, on a une entreprise. On se développe partout en Alsace, on a de la clientèle maintenant même sur Marseille. Donc non, franchement, continuer, faut persévérer, faut pas écouter les gens. Ouais, même il y a des gens autour de moi, quand j'avais parlé de ça, ils trouvaient le concept super, mais comprenaient, enfin, ils ne me voyaient pas faire ça. Et finalement, voilà, maintenant ils se disent, purée, en fait, si, il y arrive, il fait ça. Mais c'est vrai que c'est sorti de nulle part, entre guillemets, enfin, presque nulle part. Mais voilà.
Bah, au début, les gens ils croient pas en nous. Et
Ouais,
après, quand
c'est
ils
plus.
commencent à voir que ça commence à marcher, c'est ah, en fait.
Après, c'était plus, voyez, il y en a un qui me voyait, qui a 10 ans d'hôtellerie-restauration, en me disant, mais moi, enfin, on me voyait plus très dans un gérer un hôtel ou un restaurant, des choses comme ça. J'ai de la famille restaurateur aussi, et c'est vrai que du jour au lendemain, je débarque en disant, les gars, je vais faire ça. Alors, ils disent, ah, ok, c'est super, mais bon, t'es sûr et tout, parce que, ouais, voilà, c'est un peu. Puis même le chanvre, le cannabis, ok. Non, mais ils m'ont soutenu. Franchement, on m'a soutenu dès le début, on m'a dit, ok, c'est cool, félicitations, etc. Mais il y avait un petit, je pense que les gens étaient quand même sceptiques ou voyaient pas ce que ça pourrait donner ou jusqu'où on pourrait aller. Mais moi, franchement, même moi le premier, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et puis finalement, ça donne quelque chose de sympa, quoi. Et donc, tant mieux. Donc, ouais, je conseille aux gens bah, de toujours persévérer, mais peu importe ce qu'ils font, quoi. Si on est passionné par ce qu'on fait, bah, le temps qu'on met dedans, c'est pas du temps perdu. Et voilà, ça n'existe pas, les gens qui arrivent. Je sais pas, il y a peut-être 0,1% des gens là qui ont qui arrivent à faire les formules magiques là sur Facebook, des gens
Non, c'est
saluer
vrai.
avec les entrepreneurs, blablabla, genre je fais rien de ma vie et j'ai de l'argent qui rentre. Bah, cette formule magique pour moi elle n'existe pas. Il y a peut-être
Bullshit.
hop, 5 personnes en France qui arrivent à vivre de ça, mais encore voilà, c'est des conneries. Franchement, je pense que si on regarde un peu le parcours de tous les gens qui réussissent ou qui font, qui mènent des projets dans leur vie, ils ont tous bossé pour ça, hein, ça n'existe pas. Hein. Même, je sais pas, même des rappeurs, faut pas croire, hein, c'est pas Yayidio, c'est de la musique de merde. Les gars, c'est des gars qui bossent, quoi. Les gars comme Jul, on se fout de sa gueule, je suis pas forcément fan de sa musique, mais le gars, il dort 5 heures par nuit et il bosse du matin au soir, il l'arrête pas, quoi. On n'aime pas ce qu'il fait, mais le gars, pour arriver à ce qu'il fait, ou en être là, être le plus gros vendeur de disques en France aujourd'hui, eh ben, c'est parce que le gars, il taffe toute la journée, 6 jours sur 7, quoi. C'est un bosseur de fou. Et ça, là, c'est. Et ça n'existe pas, je pense, les gens qui disent, ouais, bah, je vais me lever le matin, je vais rien foutre et je vais avoir des milliers d'euros qui rentrent à la fin du mois. Non, mais et quelque part, tant mieux, parce que franchement, si on était des personnes qui, à rien faire, on avait des sommes délirantes qui tombaient tous les mois, je pense qu'on deviendrait des mauvaises personnes, des sacrées personnes, entre guillemets, quoi. Faut quand même voir le fruit du labeur pour aussi arriver à juger de ce qu'on a fait, de ce qu'on gagne, pour un peu avoir les pieds sur terre, quoi.
Ah, c'est comme la personne qui a, je retiens pas les noms aujourd'hui, qui a fait le livre La semaine de 4 heures. Je sais pas si tu connais.
C'est quoi?
C'est
Non.
en fait, il dit, en fait, c'est.
C'est par rapport au sommeil, non?
Non, c'est pas.
Ok,
Non,
donc
c'est
la
tu
semaine.
travailles 4 heures
Par
par
jour?
semaine
Par semaine, ok.
et t'arrives à avoir un salaire. En fait, il a créé une muse, en fait. C'est un des. Il y en a deux qui en parlent. Il y a l'auteur de Lean Startup et lui, bref. Et. En fait, il dit comment travailler 4 heures par semaine, mais cette personne ne travaille pas à 4 heures par semaine, il travaille ouais. tellement 80 heures en fait.
Mais non, mais c'est ça.
Ça n'existe pas.
Non, c'est mais c'est. Fou. Moi, j'y crois pas. Après, je veux bien qu'on ait mis quelque chose en place après des années où, je sais pas, peut-être certains médecins très spécialisés ont des médecines alternatives qui finalement se disent bon, qu'est-ce que je gagne ? J'arrive à travailler 3 jours par semaine, ou peut-être 4 jours. Quand j'étais en Australie, à l'époque, il y avait un boulanger. Bah, le gars, ça était dans un village, hein, ça marchait tellement bien ce qu'il faisait, il fermait 3 jours par semaine. Ils s'en foutaient, il était là. Bah, en fait, ça marche tellement bien ce que j'ai, les gens viennent de partout. Donc, il a bossé toute sa vie. Enfin, il est parti d'Allemagne, il est allé en Australie, il a bossé pendant des années, ça marchait vachement bien. Et puis finalement, après, il se démerdait pour que. Bah, les gens ont toujours du pain, mais ils étaient pas ouverts tous les jours. Ils disaient, bah, là, je ferme 3 jours la semaine. Je pourrais ouvrir tous les jours, ça marcherait aussi bien, en fait, même mieux, mais j'ai pas envie. Voilà, maintenant, j'arrive à gagner correctement ma vie en bossant seulement. Une quantité réduite d'heures, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais voilà, le gars, ça lui a pris pas une vie, mais pas loin, quoi. Tout ce qui se formait quand il était en Allemagne, après aller en Australie, bosser là-bas d'abord, après monter sa boulangerie, la mettre en place, que ça marche, voilà, mais il bosse quand même, et voilà, un entrepreneur, quand vous le voyez en face, il bosse, mais après, quand il est chez lui, il bosse, quand dans sa tête, même quand il est pas en train de travailler inconsciemment, ça bosse aussi dans sa tête... Donc c'est en continu, ça tourne. C'est ça aussi un peu le problème d'entrepreneuriat, enfin des gens qui sont une entreprise, c'est qu'on a tendance à trop réfléchir, tout le temps penser à ça, et c'est un peu une obsession. Et arriver à sortir de ça, c'est bien aussi. Arriver à s'aérer l'esprit, à couper de ça et se dire bah tant pis, ou j'ai une masse de travail, mais je vais pas le faire ce week-end, ou je vais pas travailler ce week-end, mais je travaillerai que lundi matin. Les gens, ils attendront, tant pis. Je pense que c'est aussi une bonne chose de prendre du recul pour sa santé, même mentale, entre guillemets, et son quotidien.
Mais ils disent que c'est important même de faire du sport. Ils ont une corrélation bizarre entre ceux-là qui réussissent et qui font du sport.
Bah, je pense qu'il y a de ça carrément. Parce que, enfin, moi, alors j'avoue que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais voilà, je dors pas aussi bien qu'avant. Je pense que clairement, si je faisais du sport de manière régulière, je pense que je dormirais mieux et plus longtemps. Donc, je pense, donc là, mon activité physique, je pense qu'effectivement, se dépenser, se défouler, le fait de... Ouais, je pense aller courir, s'oxygéner effectivement le corps, mais aussi un peu l'esprit, avoir une bonne fatigue et être... voilà, je pense que c'est effectivement, c'est important. Et non, moi, je peux que recommander aux gens, même une alimentation qui est saine. Hein, j'ai vu encore... pour le corps, on en parle, même des reportages là sur Arte, sur la nourriture et l'effet sur le cerveau, sur l'humeur, sur l'efficacité, etc. Donc non, je pense que... Voilà. Après, c'est jamais évident d'avoir un rythme de vie qui est sain quand on commence l'entrepreneuriat. Je pense que c'est pas évident. Et même, par exemple, ce qui est marrant, c'est que des chefs de cuisine, généralement, c'est ceux qui bouffent le plus mal. Ils font de la très bonne bouffe toute la journée, et quand ils rentrent chez eux, ils ont plus envie de cuisiner, ils s'ouvrent un paquet de chips, des granolas... voilà, c'est triste, mais moi, je l'ai connu, je l'ai vu. Voilà, ils bossent comme des oufs toute la journée, ils ont leur restaurant, ils mangent au restaurant, mais après, quand ils rentrent chez eux, ils ont même le dimanche, un peu envie, ils mangent au McDo des fois aussi, hein, on va pas se mentir, hein, parce qu'ils ont pas envie de se prendre la tête, et on peut comprendre, ils veulent quelque chose de rapide, de simple, ils font ça toute la journée, ils ont pas encore envie de faire ça les week-ends, enfin, les week-ends, ils travaillent les week-ends, mais quand ils sont en repos, voilà, je sais pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça, voilà, ça existe aussi, donc c'est vrai que il faut essayer d'avoir... un bon rythme, d'être organisé, de donner, je pense, s'accorder du temps pour tout, du temps pour soi, pour l'entreprise, du temps pour le sport, pour les amis, pour la famille, pour les activités, c'est arriver à s'organiser. Et moi, j'y arrive pas encore correctement, on va pas se mentir, hein. Je sais que c'est ce que je dois tendre vers ça, mais j'y arrive pas encore.
Faut se laisser le temps.
C'est ça.
Donc notre podcast est fini.
Mais écoute, c'était un plaisir.
Donc merci d'avoir participé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.